journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la doctrine d'Emmanuel Macron sur les migrants, l'humanisme, ça n'est pas cédé aux bons sentiments, dit le président. Alors que l'Aquarius va débarquer 58 migrants à Malte et fait route vers Marseille dans l'espoir de retrouver un pavillon pour continuer les sauvetages. Manuel Valls, le mal-aimé, s'en va pour Barcelone, officiellement candidat à la mairie. Il démissionnera de son mandat de député la semaine prochaine en France. Et on refait le référendum, nouveau credo de la gauche britannique. Les travaillistes demandent un nouveau vote pour rester dans l'Europe. Contre la PMA pour toutes les femmes. Première manifestation hier soir à Paris à 8h20. Retour sur les positions du comité d'éthique, Nicolas.
Avec deux invités, Dominique Quignot, qui est membre elle-même du comité d'éthique, et René Friedman, gynécologue obstétricien bien connu en France. Vos questions 01 45 24 7000.
À la une également, Bill Cosby en prison, l'acteur américain condamné pour agression sexuelle. La malbouffe dans le collimateur des députés, il s'attaque aux sels et aux additifs dans un rapport rendu aujourd'hui. Et puis du Shakespeare en slip kangourou à la comédie française. Attention, ça décoiffe.
France Inter.
Quand on se présente comme le chef de file des progressistes en Europe à 8 mois des élections, mais qu'on est devenu président en battant l'extrême droite chez soi, on est forcément sur une ligne de crête sur la question des migrants, d'où le dogme énoncé hier par Emmanuel Macron face à la nouvelle crise de l'Aquarius et à ce manifeste de 150 personnalités et universitaires aujourd'hui pour l'accueil des migrants. Voilà ce que dit le président, c'était cette nuit à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
L'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. L'humanisme, c'est l'exigence qui va avec l'homme et la dignité de la personne. C'est différent. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes et elle ne réglerait pas durablement la situation.
Voilà, pas de bons sentiments. La question est donc renvoyée au niveau européen. La France accueillera sa part des 58 migrants de l'Aquarius avec le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. Ils vont passer par Malte, récupérer au large de l'île quand les conditions météo le permettront. Ensuite, le bateau mettra le cap sur Marseille. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Florence.
Un bateau sans pavillon, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Dès qu'il aura touché terre, l'Aquarius ne pourra pas repartir sans pavillon, sauf à se considérer comme un bateau pirate. Mais ce n'est pas du tout la volonté des ONG à bord, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Elles espèrent encore faire changer d'avis le Panama, qui a engagé une procédure de retrait de son pavillon sur pression du gouvernement italien, mais il y a peu de chance. Il faut donc trouver un autre pays d'accueil, un pays européen, disent les ONG, au nom de nos valeurs d'entraide commune. Aucun candidat pour l'instant. SOS Méditerranée appelle les citoyens à faire pression sur les politiques, à supposer qu'un pays accepte d'accorder un pavillon à l'Aquarius. Les démarches administratives, les contrôles techniques pour un navire assez vieux prendront des semaines.
En attendant, Mathilde, quid du sauvetage en Méditerranée?
L'Aquarius a toujours été le seul à pouvoir affronter l'automne et l'hiver en mer, mais au-delà des saisons, il était le seul bateau d'ONG encore sur zone en Méditerranée centrale, contre une dizaine il y a un an. Certains navires d'ONG sont retenus en Italie et à Malte. Une large zone, au-delà de leurs eaux territoriales, est confiée aux gardes-côtes libyens en accord avec les Européens. Aujourd'hui, donc, sauf s'ils croisent la route d'un cargo ou de ses gardes-côtes, ceux qui prendront la mer mourront noyés en Méditerranée.
Mathilde Dehimi est à l'ouest de la Méditerranée. La marine marocaine ne s'embarrasse pas de précautions. Elle a tiré hier sur une embarcation de migrants qui refusait de répondre à ses sommations. Une femme a été tuée et 3 autres blessées. La crise des migrations défie pour l'Europe, le Brexit en est un autre. Et peut-on revenir en arrière? À Londres, les travaillistes veulent sortir du Brexit, donc rester en Europe. Pour la première fois, la gauche britannique a une position claire sur la question. Le congrès du parti a adopté une motion à main levée hier soir pour demander un nouveau référendum dans une ambiance électrique. Antoine Gignot.
C'est une gigantesque ovation, avec des militants debout, des cris, des applaudissements. À la tribune, Keir Starmer, chargé du dossier du Brexit chez les travaillistes, explique que tout est encore possible. Si nous voulons sortir de l'impasse, dit-il, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de faire campagne pour demander un référendum. La foule se lève lorsqu'il lance « Personne n'exclut la possibilité que nous restions dans l'Union européenne ». Cette prise de position, après 2 ans d'hésitation, n'a pas été simple. La motion, adoptée à main levée par une grande majorité de militants, continue d'effrayer une partie des responsables politiques. John McDonnell, en charge de l'économie, s'inquiète de l'impact sur les 35% d'électeurs de gauche qui ont voté pour le Brexit. Et Jeremy Corbyn, chef du parti, continue d'affirmer que la priorité, ce sont des élections législatives anticipées pour faire tomber le gouvernement de Theresa May. La gauche pourrait ensuite retarder le Brexit, explique Emily Sunbury, en charge des affaires étrangères. Elle pourrait aussi ouvrir avec Bruxelles, dit-elle, des discussions d'adultes. Liverpool, Antoine Gignot, France Inter.
Autre point chaud en Europe, en Italie, il y a du mou dans la coalition. Le mouvement italien 5 étoiles menace la Ligue d'extrême droite, son allié au gouvernement. Il ne votera pas le budget si ses promesses de campagne n'y figurent pas. En l'occurrence, le revenu citoyen et la réforme des retraites. Première fissure entre les deux partis dont les politiques économiques n'ont rien de commun.
Et puis un Européen à Barcelone.
Manuel Valls, officiellement candidat à la mairie de la capitale catalane. L'ancien Premier ministre l'a annoncé hier soir. Lui, le mal-aimé dans l'Hexagone, va quitter ses mandats en France.
Dès la semaine prochaine, j'abandonnerai mon mandat de député et toutes mes responsabilités locales. Mais je peux déjà dire les choses suivantes. J'aime la France. Ce pays a permis à un fils de Barcelone, naturalisé seulement à 20 ans, d'être maire, député, ministre et Premier ministre de la France. Grâce à l'école publique et à mon engagement politique. C'est incroyable et unique. Ma reconnaissance à la France et aux Français est éternelle. Par respect pour mes concitoyens qui m'ont toujours élu à Évry depuis 2001, comme pour les institutions démocratiques et pour le suffrage universel, il était pour moi inconcevable, dès le premier instant de cette réflexion, que j'utilise la moindre argutie.
La déclaration d'amour de Manuel Valls à la France au micro de Laurence Perron. Jean-Marie Le Pen, de nouveau hospitalisé, victime d'une fièvre persistante. 3 mois après une précédente hospitalisation, ses jours ne sont pas en danger, selon ses proches, le fondateur du Front National, à 90 ans. Contre les suppressions de postes, les profs en grève le 12 novembre, appel lancé par les 3 principaux syndicats de l'éducation, la FSU, l'UNSA et le SGEN-CFDT. 2600 postes seront supprimés l'an prochain dans les collèges et les lycées.
8h07, Florence. Trop de sucre, trop de sel, trop d'additifs.
La nourriture transformée, la bouffe industrielle, comme on dit, passée au crible d'une commission d'enquête parlementaire. Elle rend son rapport aujourd'hui, après 6 mois de travail. Et si ses recommandations sont suivies, Sophie Auvigne, il va y avoir du changement sur les étiquettes.
Le rapport ne devrait pas aller jusqu'à instaurer une taxe sur le sel, mais il pourrait mettre en place des sanctions financières si les limitations en sel ou d'ailleurs en sucre ou en graisse saturée ne sont pas respectées. Par exemple, pour le pain, dès maintenant 18 grammes par kilo de farine et 16 dans 3 ans. Dans le collimateur également, les additifs. Alors cette fois, on attendrait 2025 pour réduire le nombre de produits autorisés, de 350 à une cinquantaine, et l'alimentation bio sait déjà faire, elle utilise cette liste réduite. Mais il y aurait un plus, une limitation du nombre total d'additifs par aliment transformé, un par famille, un seul colorant, un conservateur, un exhausteur de goût. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à une trentaine sur une même étiquette et sans information sur ce qu'on appelle l'effet cocktail. Ça aussi, le rapport s'en préoccupe et demande à la recherche publique d'y travailler. Enfin, le chef d'orchestre de toutes ces mesures, ce pourrait être une nouvelle strate administrative, un secrétariat général à l'alimentation.
Et pendant qu'on s'inquiète de la malbouffe en France, l'ONU se penche sur les famines. Aujourd'hui, lancement d'un programme de prévention emmené par la Banque mondiale et la Croix-Rouge internationale avec l'aide de Google et d'Amazon notamment.
L'ONU qui a vu défiler les chefs d'État et les chocs frontaux à la tribune de l'Assemblée générale hier.
L'Iranien Hassan Rouhani qui répond à Donald Trump sur le thème du terrorisme économique. Emmanuel Macron qui dénonce la loi du plus fort sans jamais citer Trump mais en y pensant très fort. Aujourd'hui, il fera le bilan du sommet pour le climat organisé l'an dernier à Paris. Des entreprises et des philanthropes avaient fait de belles promesses pour lutter contre le réchauffement climatique. Parmi les priorités, verdir les transports, l'un des secteurs les plus polluants au monde. On en est où, Sandy Dauphin ?
Des transports plus propres, c'était l'engagement numéro 7 du sommet climat de décembre dernier à Paris. Depuis, une alliance mondiale pour la décarbonisation des transports a vu le jour. Elle regroupe 6 pays, dont la France, le Portugal et le Costa Rica, des entreprises comme Alstom ou Michelin. Leur objectif, démobiliser mobilité zéro émission d'ici 2050.
C'est un des secteurs les plus complexes à décarboner. C'est ambitieux, mais c'est possible.
Yann Briand est chercheur en politique climatique et transport à l'IDRI.
En gros, faut arrêter avec les vieux diesels et essence polluants et il faut opter pour des véhicules à faible émission que peuvent être des véhicules électriques, des véhicules donc à gaz si le gaz est entièrement décarboné, ce qui est un autre enjeu, et des véhicules, ça peut être des biocarburants liquides, s'ils sont produits de manière soutenable.
Mais verdir le parc automobile ne suffira pas, il faut aussi réduire nos déplacements sur la route.
On a fait certains scénarios qui, par exemple, de manière donc acceptable pour la population, permettent de diminuer le nombre de kilomètres parcourus de 19% par individu, c'est-à-dire en améliorant les possibilités d'accès au télétravail, favoriser par exemple l'acquisition de logements pour les gens proches de leur lieu de travail, gérer également le prix des loyers, sinon on n'y arrivera pas.
Pour l'instant, la France est loin d'être exemplaire, rappellent les associations. Le secteur des transports représente 30% de nos émissions de gaz à effet de serre.
La chute d'une icône aux États-Unis, Bill Cosby, premier noir à être devenu une star de la télévision, figure de père idéal, condamné à 3 à 10 ans de prison ferme pour agression sexuelle à 81 ans. L'acteur est le premier à tomber presque un an après le début du mouvement MeToo à New York, Loïc Loury.
Une libération pour des dizaines de femmes, toutes victimes de Bill Cosby. L'acteur n'a été condamné que pour une seule agression sexuelle, celle d'Andrea Constant en 2004. Lily Bernard, une autre de ses accusatrices, malgré tout est satisfaite.
C'est un moment alléluia. Cette pluie battante est de circonstances. C'est une sentence historique à l'ère de MeToo. C'était même le premier procès depuis le début du mouvement.
Depuis 2014, l'icône Bill Cosby a perdu tout son éclat. Une soixantaine de témoignages ont afflué, tous plus terribles les uns que les autres. Le masque est tombé, selon Kevin Steele, procureur en charge de l'affaire.
Il utilisait ses talents d'acteur, son personnage de télévision, pour soumettre ses victimes et les maintenir dans le silence. Enfin, Bill Cosby a été démasqué et nous voyons l'homme qu'il est vraiment allé en prison.
Reste que l'humoriste sera tombé à la faveur d'une seule agression, victoire incomplète pour Gloria Aldred, qui représentait plusieurs victimes.
Monsieur Cosby n'a exprimé aucun remords. Il n'y a pas eu de justice pour la plupart de ses accusatrices, laissées sur le côté, à cause d'une limite arbitraire imposée par la prescription.
Et Bill Cosby a quitté le tribunal menotté. Nul n'est au-dessus des lois, avait dit le juge en rendant sa décision. New York, Loïc Loury, France Inter.
La déprime des entraîneurs de foot cette saison, apparemment version agressive chez José Mourinho, le coach de Manchester United, qui n'hésite pas à humilier le champion du monde Paul Pogba après une défaite cuisante en Angleterre. « Moi, entraîneur, tu ne seras plus jamais vice-capitaine de la Manu », lui a dit Mourinho devant tous ses coéquipiers. Ambiance. À Monaco, Leonardo Jardim est au fond du trou, battu par Angers 1-0 à domicile hier soir. « Je ne me souviens pas d'avoir dirigé une équipe qui n'a pas cadré une seule frappe pendant un match ». Bon, enfin, ça va pas fort pour Miguel Cardozo, entraîneur de Nantes. Une victoire en 7 matchs et encore une défaite hier soir face à Nice. Lui, c'est la grande forme et la grande star de la Ryder Cup, la compétition de golf qui commence vendredi à Saint-Quentin en Yvelines. Tiger Woods et son retour gagnant, attendu comme le Messi pour ce traditionnel face-à-face entre Américains et Européens. Tombé dans les abysses du classement mondial après avoir garni la page des faits divers, Tiger Woods a retrouvé son niveau le meilleur, ce qui force l'admiration des plus grands champions. Guillaume Batin l'a constaté avec deux autres légendes américaines invitées du tournoi.
Dans le petit monde des champions hors catégorie, il y a en plus ceux qui ont connu des trous noirs, comme le meilleur nageur de l'histoire. Après une suspension pour excès de vitesse et une autre pour consommation de cannabis, c'est l'américain Michael Phelps, 23 médailles d'or olympiques.
Quand on se regarde dans le miroir, faut aimer ce que l'on voit et ne pas avoir de problème avec soi. C'est le plus important. Et c'est sans doute la performance la plus dure que j'ai réalisée dans ma carrière. Moi aussi, j'ai connu des difficultés, la peur de ne pas être capable de revoir le top. Alors je suis très heureux et fier de ce que Tiger a fait.
Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf, a lui aussi fait une pause pendant 4 ans pour sortir de la compétition et retourner aux origines du surf. Une pause moins traumatisante, mais qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'admirer le retour de Tiger Woods.
Tiger est là, il va transcender cette équipe américaine. Il vient de remporter la FedEx Cup à Atlanta, c'est incroyable. Avec lui, ils vont tout cassé. Je m'en régale d'avance.
Pour ces deux légendes du sport, Tiger Woods est un exemple car il pratique avec passion le golf depuis plus de 20 ans, dès qu'ils ont le pied hors de l'eau.
Et enfin, un classique qui décoiffe Florence à la Comédie Française.
L'Allemand Thomas Ostermeier revisite la nuit des rois de Shakespeare, amateur de tirades ampoulées, s'abstenir. Bienvenue dans un joyeux Capharnaüm, à en faire défriser les moustaches de Monsieur Molière, Stéphane Capron.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux envoyer mon CD, s'il te plaît ?
Vous n'êtes pas en boîte, mais bien dans les dorures du plus vieux théâtre de France. Tous les comédiens sont en slip kangourou ou en caleçon ultra moulant, au nez et à la barbe des spectateurs, car ils jouent le plus souvent au milieu de l'orchestre. Shakespeare a écrit au début du XVIIe cette comédie endiablée sur la liberté sexuelle. Il n'en fallait pas plus pour que Thomas Ostermeier balaye les conventions.
On voulait faire une comédie d'été. C'est pour ça aussi qu'on a mis cette passerelle dans le public. Et on voulait vraiment donner un peu l'esprit de Shakespeare à l'époque. C'était vraiment un théâtre populaire, d'actualité politique, qui parle de l'amour.
Est-ce que les comédiens sont allés plus encore dans la folie que celle que vous aviez imaginée ?
Oui, ils sont vraiment prêts à faire tout, de l'Hippolydès au très jeune. Et ça m'a vraiment ému qu'ils étaient tous prêts à tout faire et aller vers la folie.
Il y a des moments beaucoup plus calmes dans le spectacle avec des cantates interprétées par un contre-ténor. Thomas Ostermeier sait doser ses effets sans faire de contresens, car Shakespeare était avant-gardiste et avait écrit cette comédie sur le genre et le travestissement 400 ans avant le mariage pour tous.
Et oui, Shakespeare en slip kangourou, la nuit des rois, à la Comédie Française jusqu'au 28 février. Et le 14 février, figurez-vous, dans 200 cinémas en France, en direct du théâtre.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre, frisqué ce matin.
Oui, il gèle sur le nord-est, hein, comme sur les Ardennes, à Charleville-Mézières ou dans la Marne, où on relève moins 2 à Mourmelon. Vous avez moins 2 également à Épinal, mais également dans le Cher à Léré. Le soleil s'est levé avec 2 petits degrés à Beauvais et à Mulhouse, 3 à Caen et en Haute-Loire. Il fait 8 à Paris, à Lyon et à Agen et déjà 21 pour le 4. Et puis après la dissipation des brumes, la matinée sera ensoleillée pratiquement sur tout le pays, avec quelques nuages maritimes qui vont gagner le Roussillon.
Et cet après-midi, c'est le retour de l'été au sud.
Et oui, les éclaircies vont revenir grâce au vent d'autan qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Vent également entre les côtes varoises et la côte d'Azur et les Caps Corses. Sur la moitié nord, les maximales s'échelonneront de 19 degrés en bord de Manche, à 21 à Paris, 24 à Saint-Amour, jusqu'à 27 à Nevers. Grande amplitude avec ce matin, on relève seulement un petit degré actuellement. Sur la moitié sud, on attend 24 à Aurillac, 26 à Gap, Marseille ou Bastia, 28 à Clermont-Ferrand. Et c'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, comptez 29 à Bordeaux et 30 au Pays Basque. Et demain, ce sera de nouveau l'été pour tout le monde.
Merci Marie-Pierre. 8h17, Géopolitique, Pierre Aski.